du jazz.
D'hier et d'aujourd'hui.
Laurent Verdot.
Pascal Verdot.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Pour notre rentrée, nous allons naturellement être studieux et reprendre à votre intention le dictionnaire des titres de jazz et ce qui se cache derrière des titres à l'aspect parfois insolite. Et nous commençons par un endroit célèbre à Chicago qui s'appelait le...
Grand Terrace. Terrasse, bah vous savez ce que c'est qu'une terrasse. Ça vient directement du français, n'est-ce pas?
Et là, c'est la grande terrasse de café.
Et ben voilà. En gros, on donne un petit nom français parce que c'est bien. Ça fait chouette.
Ça fait chouette et ça n'a pas changé. C'était un très grand dancing et cabaret. Alors, il était conçu selon le modèle du Cotton Club. Tu sais, la grande piste au milieu où se passent les attractions, les numéros des danseurs, des chanteurs, etc. Et cette piste, de temps en temps, est vidée de toute présence artistique et elle sert aux danseurs. Quant à l'orchestre, il est au bout de la piste. Lui, il ne bouge pas. Hein, il accompagne tout le monde.
Il faut quand même préciser que qui faisait la musique, c'était les Noirs, puisque c'était du jazz. Et qui étaient les danseurs, c'était toujours que des Blancs.
Voilà, la clientèle blanche, le personnel noir, y compris la musique. Et là, on ne se mélangeait point. Comme au Cotton Club à la même époque, alors que le Cotton Club, en plus, était en plein Harlem. C'est quand même étonnant.
Comme beaucoup de boîtes de l'époque, ça appartenait à un gangster.
En l'occurrence, c'était un des lieutenants du célèbre...
Al Capone.
Al Capone. Ce que vous allez entendre, c'est l'orchestre maison de l'époque, c'est-à-dire celui de Earl Hines. On ne présente pas Earl Hines, c'est un des plus grands pianistes de jazz. Son surnom, c'était Faza, c'est-à-dire Faza, c'est le père de tous les pianistes. C'était pas tout à fait vrai, puisqu'il y a d'autres styles que le sien, d'autres influences que la sienne, mais quand même, c'est un monument. Et il était à la tête d'un grand orchestre qui faisait les beaux jours du Grand Terrace. Il faut souligner là que Earl Hines appartient à une catégorie de musiciens finalement très rares. Je crois qu'il y a aussi Jimmy Noon. Enfin, ceux qui sont restés à Chicago au moment où tout le monde filait sur New York en 1929, juste avant la crise. Ceux-là sont restés à Chicago. Ils n'ont jamais bougé, sauf à la fin de la guerre, quand il y a eu une migration importante vers la Californie. Tout ce petit monde s'est retrouvé en Californie dans les années 50.
Ça se comprend un peu, il fait toujours beau, le ciel est toujours bleu.
Voilà, et puis les forêts ne brûlaient pas encore, et puis c'était bien.
Voilà.
Et dans le répertoire de Earl Hines, il y avait naturellement le morceau de l'orchestre Maison, dédié à l'établissement Maison, et ça s'appelait bien entendu...
Grand Terrace Shuffle. Et pour le morceau suivant, qui s'appelle Gravier Street Blues, Gravier, je le prononce à la française, parce que c'est le nom français que d'ailleurs vous connaissez tous très bien, puisqu'à Aurillac, il y a le gravier. C'est les petits cailloux qui sont le long des berges, des petites rivières. Eh bien là, c'est pareil.
C'est pareil, il y a du gravier, mais alors je ne sais pas quelle est la rivière qui passe par là, parce qu'elle n'est pas sur la carte. Encore une rivière souterraine et traîtresse, en tout cas elle a laissé des cailloux, ça c'est sûr. C'est dans le quartier où se trouve également Perdido Street, c'est-à-dire un quartier déjà en marge du fameux carré français, et qui est un des quartiers au départ les plus pauvres de Nouvelle-Orléans. C'est d'ailleurs là où était né Louis Armstrong.
Il a été, il n'y a pas bien longtemps quand même, tristement célèbre ce quartier, parce que c'est un des quartiers qui a été le plus touché par l'inondation de...
Du fameux cyclone Katrina, tu te souviens de ça ?
Voilà.
Ça a été terrible, et pour les musiciens aussi, et on a eu des échos poignants. Mais tout ça n'avait pas eu lieu à l'époque où Johnny Dodds a enregistré, avec son petit orchestre...
Gravier Street Blues.
Maintenant, un disque démoniaque. Nous avons profité du titre Greyhound Blues pour en fait vous passer un disque de Robert Johnson qui s'appelle Me and the Devil.
Et là, vous allez entendre le fameux Robert Johnson. Ah ben, lui s'était fait une pub en racontant à tout le monde qu'il avait fait une rencontre avec le diable, que maintenant il était très bien introduit là-bas et que, attention, attention, hein. Et il y avait des gens qui en avaient peur, hein.
Ah oui, tout à fait. Faut dire qu'il avait disparu un beau matin en laissant le souvenir d'un guitariste très quelconque, qu'il était réapparu quelque temps plus tard, jouant absolument de manière superbe. Et il avait raconté qu'à un certain carrefour routier, il avait rencontré le diable et qu'il avait vendu son âme au diable en échange de son talent de guitariste.
Alors je pense qu'il avait rencontré un prof excellent et qu'il s'est fait sa pub comme ça.
Tu sais ce que c'est, Greyhound, en Amérique ?
Oui, je crois que c'est une histoire de car.
Oui, c'est un service d'autocar qui couvre tous les États-Unis et qui est le transport type à bon marché. Quand on était étudiant et qu'on allait en Amérique, on se déplaçait en Amérique avec des Greyhounds. Il n'y avait vraiment pas de concurrence possible au point de vue financier.
Ce qui veut dire le lévrier, je crois.
Exact. Mais naturellement, ce n'est pas le seul sens de ce mot. Greyhound désigne aussi l'art de prendre la poudre d'escampette.
Il devait être assez spécialisé dans les coquineries, celui-là.
Et nous avons donc choisi de passer un blues qui se termine sur un Greyhound et qui s'appelle donc, comme je disais au début, « Moi et le diable ». Écoute un peu ce qu'il raconte. « Très tôt ce matin, lorsque vous avez frappé à ma porte, j'ai dit « Hello, Satan !» Je pense que c'est le temps d'y aller. Et moi et le diable, eh bien, on se promenait côte à côte. Moi et le diable, oui, on se promenait côte à côte. Et puis, je suis allé battre ma femme jusqu'à ce que j'en ai assez.
Chouette, non ? Bon.
Alors après, naturellement, il y a les protestations de la femme, ça, c'est inévitable.
Encore heureux ?
Ben, c'est normal, c'était son droit. Et ça se termine comme ça. Vous enterrez mon corps juste sur le côté de la grand-route. Baby, je me fous où vous enterrez mon corps, mais je veux que ça soit juste le long de la grand-route. Et comme ça, mon vieil esprit diabolique pourra attraper un greyhound et foutre le camp.
Bon, d'accord.
Tout un programme.
Early this morning, when you knocked upon my door. Morning, ooh, he knocked upon my door, and I said, "Hello, Satan, I believe it's time to go." Me and the devil was walking side by side. Ooh, we're walking side by side. I'm going to beat my woman until I get satisfied. She said, "You don't see why that I will dog her around. Baby, you know you ain't doing me right now." She said, "You don't see why, ooh, that I be dug around. It must be that only the spirit so deep down in the ground. You may bear my body beside. Baby, I don't care where you bear my body when I'm dead and gone. You may bear my body, ooh, down by the highway side. So my old evil spirit can get a greyhound bus and ride.
Tout à l'heure, nous étions à Chicago, eh bien nous y retournons car, au moment où a été enregistré ce disque, Louis Armstrong était revenu de New York et était de nouveau en train de faire feu des quatre fers à Chicago. Il avait formé un petit orchestre qui s'appelait le Hot Five ou le Hot Seven, selon qu'il y avait ou pas un tuba et une batterie. Et ce petit orchestre, qui était spécialement un orchestre de studio, qui n'a jamais été autrement, c'était pas un orchestre régulier, a enregistré un grand nombre de merveilles, et pour nous musiciens, ce sont les disques fondateurs. Alors voilà un qui s'appelle Gully Low Blues. Mais Gully Low Blues, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous le demande.
Eh bien, quand on est dans le Gully Low, c'est qu'on va pas très bien. On est franchement au fond du trou. On n'est pas content, on est triste, on est même dépressif. Pas marrant, non ?
Ah non, pas du tout. Je dirais même que non seulement on est dépressif, mais qu'on est carrément déprimé.
Le blues, il peut être punchy, joyeux. Et puis, il peut être un cri de l'âme. Et bien là, quand on est dans le Gully Low, c'est bien de pouvoir sortir tout ce qu'on a à l'intérieur.
Et c'est pourquoi cette expression désigne la musique, en quelque sorte, un rat de terre. Et comme vous allez pouvoir l'entendre, cet épisode dépressif est précédé d'une sorte de fallacieuse allégresse.
Mama, why do you treat me so? Ah, mama, why do you treat me so? Oh, I know why you treat me so bad. You treat me mean, baby, just because I'm girly low. Now, mama, if you listen, baby, I'll tell you something you don't know. You don't know. If you just listen to me, honey, I'll tell you something you don't know. If you just give me a break and take me back, I won't be gully no more. Gully no more.
Maintenant, passons à table, ou plutôt passons à la cuisine. Voici le gumbo. Tu vois que cette lettre G a quelques avantages.
C'est un plat créole, très épicé.
Mais il y a une foultitude de gumbo. Nous avons donné un jour, dans cette émission, la recette du gumbo filé par Kidori. Mais il y a d'autres cordes à l'arc du gumbo.
Si vous voulez, je vais vous donner toutes les sortes de gumbo. Écoutez bien. Gumbo filé à la feuille de sassafras en poudre.
Ouah.
Gumbo févis, sorte de légumes fibreux. Ça fait pas envie, mais bon. Gumbo zerbe à l'okra.
L'okra, c'est un légume qu'on appelait gumbo à une certaine époque.
Ah bon? Comme c'est simple.
Ou le contraire.
Eh ben, allons-y. Gumbo huître. Ah ben là, il n'y a pas... traduction est facile, hein. Gumbo huître. Et ça, c'était toutes les sortes de gumbo, donc.
Oh, mais on peut aussi encore ajouter le gumbo écrevisse.
Eh ben voilà.
Oh, puis il y en a des tas. Hein,
et il y en a des tas.
Alors, ça désigne aussi le patois des Noirs de Louisiane.
Des Noirs francophones de Louisiane. C'est la transformation de la langue française en une langue concise et simple, mais en même temps douce et musicale. La tendance est d'abréger le plus possible les phrases. Et dans la forme et dans la construction. Tout ce qui n'est pas absolument nécessaire à la compréhension de la phrase est supprimé.
Eh ben dis donc, on dirait une description du latin.
Le genre, c'est-à-dire féminin masculin, n'existe pour ainsi dire pas et le verbe est simplifié à l'extrême. Mais c'est drôlement pratique. D'ailleurs, l'anglais, au départ, c'était un peu ça. À peu près quand même, ils ont rajouté des mots.
Quelques-uns. De même qu'il y a beaucoup de sortes de gumbo, il y a beaucoup de musiciens qui se sont référés au gumbo. Voici Hams Gumbo.
Ben bien sûr, Hams c'est qui? Ben c'est Lionel Hampton. Eh ben, c'est le gumbo de Lionel Hampton.
Avec une apparition d'un blues shouter assez rare parce qu'il est mort très jeune, il était formidable, il s'appelait Sonny Parker. Profitez bien de son vocal, il n'y en a pas beaucoup des comme ça.
I want Washington apples, Philadelphia scrambles, crazy about those Boston baked beans. That's the dish you cats ain't never seen. Say it's hot, whole potatoes, back them up tomatoes, then you add those good old collard greens. Tastes so good, better get some Jersey cream. Well, now I'm talking from Oklahoma, some from Arizona, Texas give you cows and corn. Peaches from Georgia, oranges from Florida, Niagara gives you water, tater, maters, peas and beans. Then you add this little mustard green. That's Hams gumbo from way down in New Orleans.
Tout juste avec Lou Armstrong de Gully Low Blues au fond du trou, musique à terre pour retrouver, alors cette fois-ci avec son Hot Five, un morceau qui s'appelle Gut Bucket Blues.
Un Gut Bucket, vous allez en savoir des choses hein, sur la vie américaine autrefois. Là, hein.
Ah oui.
Un Gut Bucket, c'était un baquet.
Ou une cuvette, enfin.
Oui. Donc, encore un mot français. Utilisé dans les barrel house, c'est-à-dire les gens qui vendaient de l'alcool.
Oui, bah c'est des établissements, comment dire...
Très secrets, n'est-ce pas?
Le barrel house, c'est au café-bar de luxe, ce que le bidonville est au HLM.
Et alors, ça servait donc dans les barrel house pour recueillir le produit des fuites des barils de vin et de bière. Ah oui, on laissait pas perdre une goutte.
Mais ça désigne aussi une musique à ras de terre, comme tout à l'heure, une musique authentique et une musique de très grande intensité, une bonne musique qui prend aux tripes. C'est le tout premier disque que Louis Armstrong ait enregistré sous son nom et en bon présentateur, il fait l'inventaire de son orchestre, chacun à son tour. Vous entendrez présenter la pianiste Lillardine, le tromboniste Kid Ory, le clarinettiste Johnny Dodds et, pour commencer, le banjo de Johnny Saint-Cyr. avec toutes les exhortations qui s'imposent. God Bucket Blues.
Play that thing, Mr. Cynthia Lodge. You know you can do it. Everybody from New Orleans can really do that thing. Hey, hey.
Le morceau suivant, Harry Joe Jump, ah, ça vient d'une drôle d'histoire. Il y avait un certain Fred Culliver qui a fait une grosse bêtise.
Précisons qu'il jouait dans l'orchestre Harlan Leonard et ses Rockets, qui faisaient les beaux jours des grands dancings de l'époque. Et comme tu dis, il a fait une grosse bêtise.
Il a acheté, sans aucun doute pour faire le malin, un demi-gallon de vin.
C'est plus de 2 litres, hein.
Quand même. Il a bu tout. Et ça l'a rendu tellement malade que les autres l'ont appelé Harry Joe.
C'est un mot qui normalement veut dire chevelu simplement, mais là, il veut également dire effrayant, effroyable. Et je crois qu'il y a eu une crise après ces 2 gallons ingurgités qui n'a pas dû être piqué des hannetons. En tout cas, le surnom lui est resté.
Je pense qu'il en a été jusqu'au délirium. Hein.
C'est pas impossible.
Thank you.
Ce à quoi se réfère le morceau suivant, certains écrivains l'ont appelé, ou cinéastes d'ailleurs, l'ont appelé Harlem à Montmartre.
À la fin des années 30, à Paris, on voit arriver plein de musiciens noirs américains. Il y avait beaucoup de raisons à ça, mais la principale, c'est que c'était devenu un lieu de jazz. Et Paris, du point de vue racisme, c'était une forme de liberté incroyable pour des musiciens qui avaient toujours vécu, certains dans le sud, où un noir n'avait pas le droit de faire grand-chose. Donc là, il s'éclate. En gros, c'est ça. Il s'éclate à Paris.
Et tout ça se passe dans le quartier Pigalle. Tu sais que la place Pigalle était, et je crois que ça n'a pas tout à fait disparu, la place Pigalle était le rendez-vous de tous les musiciens qui cherchaient des affaires. Bon, c'est une sorte de bourse au travail en musique. C'est un quartier où le lieu de jazz était très nombreux. Et donc, on y rencontrait absolument toutes les stars du jazz qui étaient venues à Paris à l'époque.
D'ailleurs, c'était simple. Un musicien américain arrivait, il se disait « Je vais aller là, j'ai sûrement un copain qui y est ».
Exactement, et ça marchait très bien. Et le QG de tous ces braves gens, c'était une brasserie importante, ouverte la nuit, qui était 6 rue Fontaine, si vous connaissez le quartier. C'est juste en dessous de la place Pigalle. Et cet endroit s'appelait le Boudon. Inutile de vous dire que le Boudon était à l'époque tenu par un compatriote, à nous tous, et l'endroit était tout à fait accueillant.
Et donc, le morceau s'appelle « Hanging Around Boudon », c'est-à-dire « hanging », c'est un mot pour dire « on flâne, on fait des tours, on erre presque autour de Boudon ».
Voilà, ben comme nous sommes dans l'argot américain, prenons de l'argot français. Ouais, tu sais, je zonais vers le Boudon. Et puis ça se passe à une séance d'enregistrement tout à fait intéressante du tromboniste Dickie Wells, qui était donc en visite à Paris. Il lui a été demandé au cours de la séance de jouer un blues. Il était très bien parti dans cette séance. Dickie Wells jouait magnifiquement le blues, comme vous allez pouvoir l'entendre. Là, il est assisté de Bill Coleman à la trompette, qui chante, et qui chante très Armstrong d'ailleurs. En plus, Dickie Wells était très heureux parce qu'il avait formulé le vœu exaucé d'enregistrer avec Django Reinhardt à la guitare. Et quand le blues a été fini, tout le monde était très content au studio. Et c'est pourquoi le moment heureux a été appelé
Hanging Around Boudon.
Thank you.
Vous avez remarqué que nous sommes passés subrepticement de la lettre G à la lettre H. Et ça nous mène tout droit chez Duke Ellington, car voici un morceau qui s'appelle...
Happy Go Lucky Local.
Un local, c'est un petit train, tu sais, les petits trains de vallée qui se baladaient de village en village, hein, c'était les tortillards. Et là, c'est un tortillard heureux.
Oui, c'est celui qu'on voit dans les dessins animés, vous savez, tut-tut, avec des gros yeux ronds, et il est toujours souriant.
Voilà.
Eh ben, c'est ça.
Et oui, il fume, il sautille, il a des bruits bizarres. Et Duke Ellington a écrit un jour une évocation très expressionniste d'un petit train comme ça. Vous aurez compris que c'est un convoi où on ne s'en fait pas trop. Et c'est pourquoi Ellington l'a appelé l'insouciant tortillard. Et voici maintenant un morceau très spécial. Personnellement, j'avoue que c'est un de ceux que je préfère de Duke Ellington. Il s'appelle Harlem Airshaft. Tu sais ce que c'est qu'un airshaft ? Il faut voir les photos, c'est très intéressant. Quand tu as un immeuble d'habitation, de ces grands immeubles qui faisaient quand même pas mal d'étages, tu as au milieu une sorte de cour intérieure, un peu de forme un peu ovale. Et dans cette cour intérieure, ben c'est là où passent les canalisations, les ventilations, etc. Et c'est sur cette cour que s'ouvrent pas mal de fenêtres de service, tu sais, les locaux genre cuisine, salle de bain, etc. s'ouvrent là-dessus. Et quand on est sur la terrasse d'un immeuble comme ça, on entend monter tous les bruits de l'immeuble par cette espèce de tuyau sonore. Comme c'est très haut, ça fait vraiment tuyau. Et Duke Ellington a composé ce morceau en faisant appel à ses souvenirs.
Un musicien de jazz doit avoir des souvenirs. Je me rappelle avoir composé un jour un morceau de 64 mesures d'après un souvenir d'enfance. J'étais dans mon lit et j'ai entendu un homme siffler dans la rue tandis que le bruit de ses pas s'éloignait dans le lointain. Prenez mon Harlem Airshaft. Il se passe tellement de choses dans une cour de Harlem. Tout Harlem est là. On entend des scènes de ménage, des gens qui font l'amour. On sent des odeurs de cuisine, on entend des chuchotements, des bavardages, la radio. Une cour intérieure, c'est comme un gigantesque haut-parleur. Vous voyez sécher le linge de vos voisins, vous entendez aboyer le chien du concierge, vous sentez l'odeur du café. Quelle chose merveilleuse que cette odeur! Une cour intérieure montre aussi tous les contrastes. Un type en train de se faire cuire un peu de riz, alors qu'un autre se prépare un gros dindon. La femme du type au plat de riz est une excellente cuisinière, alors que celle du type au dindon n'y connaît rien. On entend des gens qui prient, des gens qui se battent, des gens qui ronflent. Il y a des jitterbugs qui dansent au-dessus de votre tête. Jamais à l'étage en dessous. C'est drôle. C'est tout ça que j'ai essayé de mettre dans mon Harlem Airshaft.
Thank you.
maintenant, nous ne changeons pas de quartier, mais nous changeons de grand orchestre. Ce n'est plus Duke Ellington, c'est Jimmy Dunsford, mais nous sommes toujours à Harlem. Le morceau s'appelle Harlem Shout.
Shout, ça veut dire le cri.
Le cri de Harlem, absolument.
Mais un cri fort, hein. Pas un petit cri de souris. Hein.
Oui, mais ça veut aussi dire rent party. Ça désigne aussi ces fameuses soirées que les gens donnaient pour payer leur loyer.
Oh, on vous en a peut-être déjà parlé, mais peut-être l'avez-vous oublié. Quand quelqu'un était vraiment dans l'ennui pour payer son loyer et que le propriétaire venait tous les deux jours pour dire « Alors, et mes sous ?» Ils invitaient tous les amis qu'ils connaissaient et les amis des amis. Et ils leur disaient « Venez danser chez moi. Il y aura de la musique, il y aura peut-être d'autres choses. » Et chacun apportait un petit quelque chose, mais surtout, chacun payait. Chacun donnait sa petite obole pour que le locataire puisse payer le propriétaire à la fin de la soirée.
Et l'orchestre.
C'était une façon complètement géniale et ludique de tourner les ennuis d'argent.
Alors on va quand même faire un peu d'histoire, parce que depuis le temps qu'on parle de Harlem, en fait, on n'a jamais évoqué comment Harlem est devenu Harlem. Un peu d'histoire, donc, ne messiera pas dans cette émission à caractère profondément culturel.
Et didactique.
Harlem est un district du bourg de Manhattan, New York City, qui est devenu le plus important quartier noir de la ville depuis le début du XXe siècle. Il tire son nom de la communauté hollandaise initiale, parce que tu sais qu'au départ, New York était hollandais. Et il y avait une communauté qui venait de Harlem.
Qui est une ville hollandaise.
Voilà, alors on a fait sauter un A, puis c'est devenu Harlem. Au départ, le quartier noir était sur le flanc ouest de Manhattan et était surnommé la Black Bohemia. Et puis ça a bougé uptown en 1903, lorsqu'un nommé Philip Payton, qui était un marchand de biens et un conseiller en patrimoine avisé et fortuné, a persuadé les propriétaires blancs de pas mal de maisons de louer leur appartement à des Noirs, parce qu'il y a de plus en plus de Noirs qui arrivaient à New York. Et en 1930, c'est comme ça qu'Harlem était devenu une communauté de 200 000 personnes, avec pleine propriété des immeubles qu'ils occupaient. Voilà, vous savez tout, parce qu'après 1930, tout le monde sait que Harlem est resté ce quartier tout à fait particulier, où nous nous sommes promenés et où nous n'avons pas été assassinés. Thank you. que voilà un titre bien mystérieux sous la plume de Duke Ellington. Ça s'appelle « Heifut, Strohfut ».
Avez-vous déjà fait danser des gens qui sont en ligne ou alors simplement regardé des gens à qui vous indiquez vous allez à droite et à gauche? Vous en avez, allez, on va dire, un petit quart qui ont beaucoup d'hésitation. Est-ce que c'est par là ou est-ce que c'est par là? Surtout quand les gens se font face. C'est compliqué. Donc, c'est beaucoup plus simple de dire vous allez vers la porte ou vous allez vers la fenêtre. Ah, la personne se trompe. Eh bien là, c'est le même système. Quand il y avait des militaires qui arrivaient, il fallait les faire marcher au pas. Des gars, pas que de la campagne, hein, il y en avait des gars des villes qui se trompaient tout pareil. Hein.
Ah ben, le nombre de gens qui ne savent pas distinguer leur gauche de leur droite, c'est impressionnant, surtout en période électorale.
Alors, les militaires, ils avaient trouvé un truc. Ils mettaient un peu d'herbe dans le soulier du pied gauche et un peu de paille dans le soulier du pied droit. Et ça faisait herbe, paille, herbe, paille, herbe, paille.
Tout ça, ça a été inventé par des Anglais du XVIIIe siècle pour arriver à discipliner les gardes locales qui servaient de réserve à l'armée. Autrement dit, c'est l'équivalent du moderne Hunde, Hunde. Et vous allez voir que le vocal de Ivy Anderson est assez...
militaire.
Il est assez dans l'esprit de la chose. Et naturellement, vous ne serez pas étonné d'apprendre que ce morceau a été enregistré pendant la Deuxième Guerre mondiale, naturellement. Gauche, droite, gauche, droite.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.